Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
On l'a longtemps cru, et elle aussi, mezzo, mais après 30 ans de carrière où elle a incarné plus de 400 fois Carmen, Béatrice Auria Monzón ne sera-t-elle pas aussi une soprano contrariée, comme il y a des gauchers contrariés? C'est ce que pourrait confirmer ce nouveau disque, Assoluta. Il paraît vendredi sur le label Aparté, 11 airs de grandes héroïnes dramatiques du 19e siècle. C'est avec l'orchestre du théâtre lyrique Giuseppe Verdi de Trieste, dirigé par Fabrizio Carminati. Bonjour Béatrice Auria Monzón.
Bonjour.
Avant de parler de ce disque, tiens, mais d'abord Bob Dylan, vous aviez l'air très séduite.
Oui, j'aime bien. Évidemment, c'est pas du tout la même vocalité qu'à l'opéra, mais je trouve qu'il y a quelque chose de déchirant dans sa voix, une espèce de... comme une tristesse, on dirait toujours qu'il est au bord des larmes. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée en fond, derrière la barcarolle. Donc, je trouvais ça très très beau.
Est-ce que vous étiez au bord des larmes vendredi pour retrouver le public au Palais Garnier?
Alors, on était très émus tous. On était extrêmement contents parce que ça faisait, pour ma part, presque 13 mois, 14 mois que... D'ailleurs, mon dernier spectacle était l'an dernier au même endroit, au Palais Garnier, pour Yvonne, princesse de Bourgogne. Donc, on avait eu la dernière le 8 mars et confiné le 14. Et là, bon, on a eu de la chance. Donc oui, on était très contents, très très contents.
Deux représentations déjà de cette création, le soulier de satin de Marc-André Dalbavy. C'est jusqu'au 13 juin à l'Opéra de Paris, au Palais Garnier. C'est enregistré par France Musique. On pourra l'entendre le 19 juin. Des retrouvailles donc avec le public. Et puis, un spectacle énorme, hors norme. 6 heures de spectacle, 4h30 de musique et, pour votre part, 3 rôles différents. Comment on sort physiquement d'un spectacle comme ça, hier soir par exemple?
Alors, bien sûr, je ne chante pas pendant 6 heures. D'abord, je n'ai pas le premier rôle. C'est
mais 3 rôles.
Trois rôles différents, Donna Honoria... Donna Isabelle et la religieuse. Mais c'est très espacé. Moi, j'ai beaucoup d'attentes dans ma loge. Ce sont tous des petits rôles, en fait. Mais on attend beaucoup. Moi, j'essaie de rester très, très concentrée. Je fais pas grand-chose d'autre dans ma loge que penser à mon rôle répété. Parce que sinon, on perd un peu le fil. Et c'est un peu ennuyeux. Mais il y a une magnifique... magnifique distribution, Eve Maud Hubo qui est absolument superbe, Luca Pizarroni et beaucoup de chanteurs français, et avec une belle musique. Et là, je suis plus dans un rôle de mezzo, donc qui est un peu loin de ce que j'ai fait.
On va en reparler, on va vous écouter d'abord. Ça veut dire quoi, Assoluta?
Alors, je me doutais qu'on me poserait la question. Vous savez, il y a ce terme souvent que l'on dit diva assoluta, mais qui était vraiment des propos qui étaient tenus pour des grandes chanteuses comme Mireille Lafreni, Maria Callas, les divas absolues. Oh, je me prends pas pour ça du tout, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre le titre en entier. Mais en tout cas, Béatrice Auria Monzón, aujourd'hui, elle est ça. Dans l'absolu, je suis ça. Je suis ces femmes. Enfin, c'est prétentieux de dire je suis ces femmes, mais je me reconnais aussi dans cette vocalité, dans ces compositeurs, et voilà, c'est un peu ce que je suis aujourd'hui. Strange and me all on weird.
Verdi, La Force du Destin, c'est la dernière plage de ce disque Assoluta qui ne paraît que vendredi, hein, c'est une avant-première sur France Musique, le disque de Béatrice Uria Monzon, ou Uria Monzon, si on le dit à la française, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'orchestre du théâtre lyrique Giuseppe Verdi de Trieste, dirigé par Fabrizio Maria Carminati, un disque aparté. Ce rôle de Leonora, vous l'avez
non,
jamais chanté?
Non, je ne l'ai jamais chanté, c'est un rôle que j'aimerais bien chanter, mais il y a plusieurs extraits de ce disque. Enfin, la plupart, je les ai chantés, mais certains que je ne chanterai jamais. Norma, je pense que je ne chanterai pas Norma. Alors, pour le coup, c'est un peu trop soprano, peut-être, et surtout très, très long. Après, voilà, il y a des fois des propositions de rôle. Quand j'ai eu cette transition entre le mezzo-soprano et qui m'a fait me poser des questions sur le fait de commencer à embrasser ce répertoire de soprano dramatique, c'est vrai que j'étais hésitante. Après, bien sûr, bon, Adrien Le Couvreur, je l'ai chanté, Cavalleria, je l'ai chanté. Il y a beaucoup de choses sur ce disque que j'ai déjà fait en scène. Lady Macbeth, Gioconda. Mais certains rôles, je ne les ferai pas. J'avais même hésité à mettre Mimi de la Bohème, qui me va très bien vocalement. Après, évidemment, je ne le chanterai pas.
Mais alors pourquoi, évidemment, parce que tout le monde n'est pas spécialiste d'opéra qui nous écoute, heureusement. Là, on écoutait La Force du Destin. Destin de mezzo, c'est un destin contrarié. C'est quoi, en fait, une mezzo, une soprano? Pourquoi alors, on définit toujours une artiste lyrique ou un artiste lyrique selon sa tessiture?
En fait, moi, pendant longtemps, on m'a qualifié... C'est-à-dire que j'ai eu cette étiquette, beaucoup de Carmen, comme vous l'avez dit, je l'ai chanté plus de 400 fois. Donc ça m'a un peu collé à la peau, et c'est vraiment la typologie d'un mezzo, on va dire, même s'il a écrit soprano, et que des fois, des mezzos, peut-être un peu plus légers que moi, peuvent le faire. C'est un peu entre les deux, ce rôle de Carmen, mais bon, on m'a mis cette étiquette. Pourtant, déjà assez jeune, ayant des facilités dans l'aigu, je m'étais posé la question de savoir si je commencerais pas à travailler les sopranos. Mais je trouvais que je perdais ma couleur de voix. Donc, ce qui fait la spécificité du mezzo-soprano, une couleur plutôt ronde, une couleur peut-être un peu sombre et un peu charnue en ce qui me concerne. Et donc, j'avais l'impression de perdre toutes ces qualités. À une époque, donc je suis restée dans ce répertoire de mezzo-soprano, et finalement, je crois que des années après, en travaillant énormément, j'ai réussi à garder ces qualités tout en montant dans l'aigu, et c'est pour ça que j'ai dit soprano dramatique. C'est un peu un mélange du mezzo et du soprano, le soprano dramatique.
Quand vous chantez un rôle dit de soprano et un rôle de mezzo, il se passe des choses différentes dans votre corps, dans votre gorge.
et dans la tête également. Parce que je disais en plaisantant, c'est pas complètement en plaisantant, c'est que on n'aborde pas les rôles de la même manière, on n'aborde pas la technique de la même manière. Je vais pas dire qu'il y a des, dans les voix graves, on peut s'arranger avec des couleurs, on peut s'arranger avec l'émotion, avec, même si techniquement c'est pas parfait. Mais je crois qu'il y a, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur de chanter des rôles plus aigus, qu'il n'y a pas de place pour le petit grain de sable qui va faire que la machine va partir. Et techniquement, j'ai énormément travaillé pour pour arriver à la perfection, mais en tout cas à tenter de l'atteindre, parce qu'il y a des exigences qui sont autres que celui dans le répertoire de mezzo, je trouve.
C'est tout à fait étonnant, ce disque sort vendredi. Ça fait 30 ans que vous faites ce métier. C'est votre premier disque récital, ça m'a énormément étonné. Il y a quelques mois, on recevait aussi Ludovic Thésier, qui est aussi un disque, premier disque récital qui arrive comme ça. Alors vous allez me dire, c'est pas vous qui décidez, c'est comment vous l'expliquez? Vous n'en avez pas le désir, peut-être?
Mais bien sûr que si, mais tout le monde me pose la question, je suis presque... Enfin, c'est pas à moi, j'allais dire qu'il faut poser la question, c'est plutôt aux maisons de disques, pourquoi ils n'ont pas eu envie, ou l'idée, ou je sais pas. Après, voilà, ça, ce disque, Assoluta, c'est une rencontre avec Nicolas Bartholomé, lors de l'enregistrement... Oui, directeur artistique, lors de l'enregistrement d'un disque de Ophélie Gaillard, violoncelliste, magnifique violoncelliste, qui enregistrait un disque sur Strauss et qui m'avait demandé à la fin de chanter un lead de Strauss, Morgan. Et donc voilà, cette rencontre a fait qu'on a discuté, et j'ai dit je me suis lancée, parce que je suis pas quelqu'un qui ose souvent comme ça facilement demander les choses. J'ai dit mais pourquoi il y aurait pas un projet, et donc ça s'est fait comme ça.
Ça aussi, c'est parce que on vous voit sur toutes les scènes lyriques de France, d'Europe. On vous voit aussi régulièrement au Corégide d'Orange à la télévision, mais peut-être que vous n'avez rien demandé, donc. Enfin,
voilà. Oui, peut-être. Peut-être que j'attendais de devenir un soprano.
Béatrice Moyamonzone, vous ne chanterez jamais, dites-vous, mais il ne faut jamais dire jamais, Norma sur scène. En tout cas, vous la chantez sur ce disque. Peut-on, est-il nécessaire de désannoncer, comme on dit en radio, Castadiva, Norma, Bellini, Béatrice Auriemmonzone, l'orchestre du théâtre Giuseppe Verdi de Trieste, dirigé par Fabrizio Maria Carminati. C'est un disque qui paraît en fin de semaine chez Aparté, disque dont Alain Duo signe d'ailleurs le livret. Vous serez en concert, spectacle le 23 juillet près d'Aix-en-Provence au château Bonisson pour Calas, une vie, un destin, avec Antoine Paloc au piano. C'est aussi un disque qui est lié à ce spectacle-là autour de Maria Callas.
Alors c'est vrai qu'Alain Duo avait eu ce projet, et bon, il a écrit un texte où il raconte la vie de Maria Callas et qui est entrecoupée de différents airs, dont la plupart sont dans le disque, effectivement. Et c'est un concert qu'on a beaucoup donné, plus d'une vingtaine de fois, et que l'on continue. C'est assez intéressant parce que les gens connaissent Maria Callas, ou en partie connaissent sa voix, peut-être parfois moins sa vie, et donc ils apprennent beaucoup de choses. Et ce duo, sans jeu de mots puisque c'est Alain Duo, mais je pense que c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux dans les concerts. Les gens ont envie d'entendre de la musique, mais aussi d'avoir une voix parlée, quelqu'un qui raconte quelque chose, qui nous nourrit aussi autrement. Et c'est le cas de ce projet de Maria Callas. Lorsque je fais des récitals aussi de musique espagnole, je parle aussi pas mal parce que les gens, parfois c'est de la musique qu'ils connaissent pas très bien, et donc on parle un peu des compositeurs. Donc Alain Duo là parle de Maria Callas, bien sûr, raconte en deux mots l'histoire des œuvres que j'interprète, et c'est là aussi un programme très lourd pour moi. Et heureusement qu'il est bavard un peu, parce que comme ça me permet de respirer un peu, parce que là sur le disque, bon, on prend du temps pour enregistrer, mais là tous ces airs presque je les fais en une heure,
et on retrouve ces héroïne tragique du disque dans ce spectacle. Quel serait le point commun de ces rôles, de ces femmes que vous chantez ici sur ce disque?
Alors évidemment, à part l'époque que vous avez citée de ces compositeurs du 19e, je pense que je crois que toutes ces femmes, je me retrouve, sont toutes des femmes qui souffrent quand même. C'est pas très joyeux. C'est pas très joyeux. Oui, je pense qu'il y a une richesse intérieure, un désir d'amour, le drame qui est omniprésent, même s'il est en chacune d'elles très différent. On commence avec Adrienne Le Couvreur, qui est l'humble servante de la musique, et Tosca, qui elle-même dit qu'elle a vécu d'art et d'amour. je pense qu'elles vivent toutes d'amour, mais un amour qui est vécu différemment, dans la souffrance, dans la tragédie, dans l'espérance, jusqu'à notre Macbeth qui, elle, c'est un amour aussi particulier, déjà l'amour du pouvoir. Et voilà, je pense qu'il y a... Et puis, il y a une certaine violence aussi dans l'expression de cet amour.
Carmen, on en a parlé. Carmen vous colle à la peau comme le sparadrap qui colle au doigt du capitaine Haddock. Et pourtant, vous allez lui faire... vos adieux à ce personnage l'an prochain au Stade de France, un spectacle qui devait avoir lieu là cette année, qui est reporté en juin 2022 avec Roberto Alagna entre autres. Ouais. Comment vous appréhendez ça, parce que c'est tout à fait différent de ce que vous connaissez, c'est sonorisé, c'est énorme, immense.
Eh bien, on a une confiance, il faut avoir une grande confiance dans les ingénieurs du son qui vont nous soutenir, parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas de contrôle sur notre voix. Il est évident qu'à la base, Carmen, ça a été fait pour la salle Favart, donc un endroit évidemment bien plus intime. Bon, là, voilà, ça a été une proposition. Je l'ai acceptée parce que ça m'amusait de boucler la boucle. Je l'ai commencé à Paris, je le termine à Paris avec Roberto Alagna. Je l'ai pas commencé avec Roberto, mais je l'ai beaucoup fait avec lui. Et c'est quelqu'un qui m'est cher. Et je sais peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, j'aurais pas accepté. Mais dans ce contexte-là, ça m'amusait. Alors après, bien sûr, on va voir. Assez peu de répétitions, ça va être immense, donc je sais pas, je vous le dirai après.
Rendez-vous dans un an, 18 juin 2022, c'est quoi le rôle le plus difficile pour vous ?
Que j'ai chanté ? Il y en a beaucoup qui sont très difficiles pour différentes raisons. Quand j'ai chanté le château de Barbe Bleue en hongrois, c'était très compliqué. Non pas vocalement, quoique ça a été un des premiers rôles qui m'a fait réfléchir à changer de tessiture. Mais bon, l'appréhension, apprendre ce rôle en hongrois, moi je me suis mise 2 ans à l'avance, c'était compliqué. Le Gioconda que je vais reprendre à la rentrée au théâtre du Capitole à Toulouse a été un des plus difficiles que j'ai appris. Bon, mais Tosca, qui a été la transition, l'a été aussi, évidemment.
Gioconda au théâtre du Capitole de Toulouse, du 24 septembre au 3 octobre, on se projette. Et la Gioconda, elle est aussi sur ce disque.
Oui.
Extrait de cet air à l'acte 4 de la Gioconda de Ponchielli avec Béatrice Uriamonzon, notre invitée ce matin, l'orchestre du théâtre Giuseppe Verdi de Trieste, dirigé par Fabrizio Maria Carminati. C'est sur ce disque qui paraît en fin de semaine chez Aparté, Gioconda qui vous donnerait donc à Toulouse à la rentrée. En attendant, en ce moment, c'est le Palais Garnier, c'est d'Albavi avec cette création. Pourquoi vous avez... autant ce goût de la création, alors vous parliez, c'était pas une création, mais de Boussemans l'an dernier avant le confinement. Entre temps, à Strasbourg, vous avez donné une création enregistrée par France Musique d'ailleurs également de Zad Moultaka.
Oui.
Ça occupe d'apprendre des rôles comme ceci.
Mais écoutez, franchement, on me posait la question il y a quelques années, alors, l'opéra contemporain, et j'étais, je prenais beaucoup de dissonance, je disais, ah non, jamais, j'y toucherai pas, ça me dit rien, c'est une musique que j'ai du mal à comprendre, c'est pas bon. Et finalement, j'avais le premier opéra contemporain que j'ai fait, c'était Trompe-la-Mort de Luca Francesconi à l'Opéra de Paris. Et à la suite de ça, on m'en a proposé énormément. Et alors, ça paraît idiot, hein, mais c'était. Je trouvais le processus de la création, le contact avec le compositeur, qu'on, évidemment, on ne voit jamais dans les autres œuvres que je chantais jusqu'alors. Et j'ai trouvé le processus de création très intéressant. Après, vocalement, c'est parfois un peu compliqué. Luca Francesconi était terrible vocalement, notamment pour moi, mais je trouve ça intéressant.
Vous avez la tentation de faire changer quelques petites choses quand les compositeurs sont vivants ?
Alors, oui, bien sûr. C'est aussi l'intérêt de pouvoir en discuter. Là, avec Marc-André Dalbavy, j'ai pas osé, mais je sais que d'autres chanteurs de la production l'ont fait. Il a été très, très ouvert et vraiment très gentil. Je regrette parfois de ne pas l'avoir fait davantage. Enfin, je ne l'ai pas fait du tout, d'ailleurs, à part une note que j'ai demandée. Mais parce que c'est un peu encore dans ma tessiture de mezzo-soprano et c'est pas les endroits qui sonnent le mieux pour moi. C'est pas là où je suis le plus confortable.
Ici, dans Le Soulier de Satin, c'est une production très théâtralisée qui demande un travail d'acteur très poussé. Il y a aussi des acteurs sur scène, d'ailleurs. C'est quelque chose qui vous plaît, vous intéresse ?
Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est dommage parce que des fois, c'est pas assez poussé. Mais là, c'est Stanislas Nordet qui fait la mise en scène. Et c'est un spectacle qui est magnifique. Alors les gens, je pense, parfois, c'est dommage. Ils sont un peu réticents parce que c'est vrai que c'est très long. Parce qu'on connaît peut-être pas assez bien Claudel. C'est de la musique contemporaine. On se dit, oh mon Dieu, c'est bon. Mais c'est très, très beau. Il y a des magnifiques costumes, des belles lumières. Et il y a beaucoup de poésie dans ce spectacle. Et je pense que ça vaut la peine de franchir le cap.
Avec alternance de voix parlée et de textes voix chantées. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, Christian Merlin dans Le Figaro parle presque du théâtre avec musique de scène.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Non, mais s'il avait fallu tout mettre en musique, ça aurait pas duré 6h30, ça aurait duré 15h peut-être.
Merci Béatrice Auriemmonzone d'être venue ici ce matin. Le Soulier de Satin de Marc-André Dalbavy, c'est jusqu'au 13 juin au Palais Garnier à Paris. Il reste des places et ce sera le 19 juin sur France Musique. La veille, le 18 juin, vous serez au Corégidorange en direct et un an plus tard, le 18 juin 2022, au Stade de France pour Carmen. Et entre-temps, on vous retrouvera à Toulouse. Vous avez passé une année. Comment vont vos truffes ?
Écoutez, bien, ça fait 2 mois que je les ai laissés, mais je pense qu'ils vont bien. Enfin, les
arbres,
en tout cas.
Vous avez planté des chênes ?
Oui. Ouais, 400.
Du côté d'Agen ?
Oui, 400 arbres de truffiers, j'ai planté de mes petites mains.
Bientôt une récolte.
J'espère.
À suivre, vous reviendrez pour nous en parler peut-être avant Carmen, voilà. Au Stade de France. Merci. D'accord. Béatrice Auriemmonzone. Notre invité demain matin sera le pianiste Willem Lachoumia pour son nouveau disque.